Bonjour à tous. Nous sommes au dernier jour des pains sans levain. En pensant à vous, tout le monde, ce fut, si je peux parler un peu plus personnellement, l'un des plus merveilleux jours des pains sans levain, la Pâque. En pensant à vous, nous nous sommes vus pendant la Pâque, c'était un événement sobre. Puis nous avons pleuré ensemble pendant la semaine, et nous avons ri ensemble pendant le dîner dansant. Et nous voilà, avec beaucoup de leçons que nous avons apprises, beaucoup de messages que nous avons entendus, beaucoup d'examens de conscience que nous avons faits dans nos vies. C'est de ma part que je vous salue, mes frères. Cet après-midi, c'est une occasion très spéciale de m'adresser à vous. Je pense aux frères qui, je l'espère, n'auront pas le temps de l'entendre, mais il y aura aussi des personnes sur le terrain, des ministres qui s'adresseront à leur congrégation aujourd'hui. Alors que je commence à exposer le message, je pense aux histoires. Tout le monde aime une bonne histoire. Non pas que je vais raconter une histoire. Vous pourriez vous endormir après un merveilleux repas et je commence à raconter une histoire. Les enfants aiment entendre des histoires, n'est-ce pas? Même s'ils sont tout petits. Vous les mettez au lit, ils ont pris leur bain, et en pensant à nos enfants, ils ont dû s'essuyer les cheveux, et maintenant c'est l'heure de l'histoire, l'heure d'entendre une histoire et d'écouter une histoire. C'est toujours ce qu'ils veulent entendre, n'est-ce pas? Ils sont prêts à entendre. Ils sont prêts à écouter, à se blottir contre papa et maman et à commencer à écouter une histoire. Parfois, c'est une histoire tirée d'un livre. D'autres fois, il s'agit d'une histoire que papa ou maman a inventée de toutes pièces. Ce qui est intéressant dans les histoires que les enfants entendent, c'est que lorsque vous racontez l'histoire, les parents ont parfois l'impression qu'ils n'écoutent pas vraiment. Il peut s'agir d'une histoire de la Bible que vous leur avez racontée, ou simplement d'une histoire que vous avez lue dans un livre, ou d'une histoire inventée que vous pensez qu'ils n'écoutent pas, mais le lendemain matin, vous commencez à en parler, et à la table du petit déjeuner, ils commencent à réciter ce qu'ils ont appris. Les enfants sont enthousiastes. Ils s'engagent lorsque les parents racontent une histoire. Imaginez-vous en train d'entendre des histoires, peut-être comme lorsque vous étiez plus jeune, ou de raconter vos histoires à vos petits-enfants ou à vos enfants. Frères et sœurs, en pensant aux histoires, nous pourrions dire que la Bible est une histoire que Dieu nous a donnée de la Genèse à l'Apocalypse. Maintenant, la question peut être de savoir si nous disons qu'il s'agit d'une histoire de fiction, comme lorsque je raconte l'histoire à nos enfants, le soir suivant, l'histoire devient de plus en plus longue, et plus tard, vous vous endormez. Je me souviens de nombreux soirs où je me suis endormi en racontant une histoire à mes enfants et le soir suivant, l'histoire s'est peut-être un peu allongée et s'est transformée en un conte après l'autre. Mais en pensant à la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, il ne s'agit pas d'un roman. Ce n'est pas une histoire fictive à laquelle nous pensons. La parole de Dieu n'est pas une histoire que l'on raconte aux enfants. Imaginez que Dieu nous ait donné la Bible, mes frères, et réfléchissez-y un instant. En combien de temps pensez-vous que Dieu aurait pu l'écrire? Il a fallu des millénaires pour écrire par l'intermédiaire de personnes. Dieu a utilisé des personnes. Imaginez un instant que le Père se soit assis avec Christ et qu'ils aient parlé. Ils ont discuté de la possibilité de mettre la Bible sur papier, de l'écrire. Le Père aurait peut-être pu dire, « Nous allons juste nous amuser un peu. » Au début du message, le Père aurait pu dire, « Je vais écrire l'Ancien Testament, et mon fils, je te délègue l'écriture du Nouveau Testament. » Et ils auraient pu le faire en un clin d'œil. Il suffisait de l'écrire, de la préparer et de la transmettre aux êtres humains pour qu'ils commencent à l'écouter. Ils auraient pu dire, « Voici ma parole. C'est la vérité, et il faut la suivre de la Genèse à l'Apocalypse. Combien de personnes auraient voulu écouter cette histoire? Non, frères et sœurs, Dieu a utilisé des gens. Dieu était prêt à utiliser des gens. Lorsqu'il a écrit la Bible, il a utilisé des gens pour le faire. Il était prêt à autoriser des gens avec des erreurs, des gens avec leurs propres nuances, pour ainsi dire, leurs propres problèmes, leur propre éducation. Dieu a utilisé des personnes pour écrire sa parole. Il a rendu cela possible. Il aurait pu se l'approprier et dire, « Ceci est ma parole ». Mais le message qu'il voulait nous transmettre, il a voulu le rendre personnel en utilisant des personnes. Frères et sœurs, nous sommes au dernier jour des pains sans levain. Nous pensons à Dieu qui utilise des personnes réelles. Pensez à la sortie d'Égypte d'Israël. Imaginez que ce n'était pas réel. Dieu l'a simplement écrit. Il a dit, voici les leçons à tirer de ces exemples. Mais cela n'a pas vraiment eu lieu. Comment pourrions-nous l'écouter? S'il voulait que sa parole soit transmise rapidement, il était prêt à utiliser des gens. Nous avons eu des messages sur les victoires d'Israël, mais aussi sur ses faiblesses, les erreurs qu'il a commises tout au long de son séjour en Égypte, de sa sortie d'Égypte, de sa sortie du péché, de sa traversée de la mer Rouge, de son séjour dans le désert et de son entrée dans la terre promise. C'était un défi avec les gens. Dieu a dû s'occuper des gens et leur permettre de commettre certaines erreurs. Mais il s'est servi d'eux, à travers leurs erreurs et leurs victoires, pour nous donner sa parole et la rendre personnelle. Frères et sœurs, ici, au dernier jour et pendant les jours des pains sans levain, il y a un but, un thème spécifique dans la parole de Dieu pendant les jours des pains sans levain que nous allons examiner. Je vous invite à lire avec moi le chapitre 13 de l'Exode, que nous avons abordé ce matin à travers ces versets. Mais il y en a un qui est écrit sur le papier, qui est évident, que nous lisons et que vous avez lu de nombreuses fois au cours de ces jours, et il y a une leçon pour nous, un thème, un principe, un but que Dieu a. Vous êtes tous dans l'Exode, chapitre 13. Nous reprenons au verset 6, Exode 13, et au verset 6. Dieu dit, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. » C'est maintenant, au moment où Israël sort d'Égypte, que Dieu dit, « Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. » Ils n'ont jamais entendu ces instructions, pensant encore une fois que Dieu pourrait simplement, nous pourrions lire quelques milliers d'années plus tard, que Dieu a dit quelque chose dans la Bible, mais que cela ne s'est jamais produit. Nous savons qu'il devait amener une nation physique. Il a dû les élever. Il a dû les faire sortir physiquement d'Égypte pour pouvoir leur donner ses instructions personnelles. Il dit, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, et le 7e jour sera une fête pour l'Éternel. » C'est ce que nous avons fait, mes frères. Nous avons accompli ce commandement. Mangez ce pain d'affliction chaque jour, luttez pour l'avaler, peut-être y mettre du Nutella ou en faire une pizza, avec de l'origan, du poivre noir et de la mozzarella, ou parfois, quand on est pressé, on le mange sec, et il est très sec. Vous réalisez alors qu'il y a là une leçon qui le rend personnel. Imaginez que Dieu ait simplement écrit cela, et que cela ne se soit pas réellement produit. Il a dû utiliser des gens. Il a ordonné à l'homme, à la nation, de faire cela. On mangera des pains sans levain pendant 7 jours, et l'on ne verra chez vous aucun pain levé. Je pense que le message du matin a déjà posé cette question à quelqu'un qui a glissé, et je n'ai donc pas besoin de la poser cet après-midi, mais peut-être l'avez-vous à l'esprit. Pas de pain levé dans vos maisons. C'est une période spéciale de l'année. Nous ne faisons jamais ce genre de choses à un autre moment de l'année. Il n'y aura pas de levain dans l'ensemble de vos quartiers. Tu le montreras à ton fils en ce jour-là. Nous enseignons à nos enfants, comme nous l'avons entendu, et nous leur racontons des histoires, qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire fictive, mais d'une réalité. Ce n'est pas de la fiction. Nous pourrions dire que la parole de Dieu n'est pas une fiction. Cela se fait à cause de ce que l'Éternel m'a fait lorsque je suis sorti d'Égypte. Dans notre esprit, nous pouvons penser, d'accord, il y a quelques milliers d'années, Dieu a utilisé des personnes physiques, cela ne s'applique pas à moi. Nous savons, frères et sœurs, qu'à cette époque, nous avons, plus que quiconque, pensé à notre sortie de l'Égypte spirituelle, à notre sortie du péché. Les erreurs commises, les choses que Dieu nous a montrées à propos de nous-mêmes, nous en sommes sortis, et nous sommes maintenant, nous avons beaucoup de notes dans nos carnets. Nous avons beaucoup de pensées dans notre esprit sur les choses que Dieu nous a montrées, peut-être qu'il a répété pour nous montrer une deuxième fois, peut-être une troisième ou une quatrième fois, ou peut-être que c'est la toute première fois à propos de nous-mêmes que nous apprenons quelque chose, mais nous avons ces notes. Maintenant, nous l'avons dans notre esprit. C'est personnel, et ce sera pour vous un signe sur votre main et un souvenir entre vos yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans votre bouche. Maintenant, ce verset commence à montrer un peu, c'est quelque chose dans notre esprit comme nous l'avons déjà abordé un peu, les choses qui sont dans notre esprit en ce moment entre vos yeux, afin que la loi du Seigneur soit dans votre bouche. Nous avons parlé l'un de l'autre ou l'un à l'autre, la communion pendante, après le passage, pendant la nuit à observer. Nous avons parlé de nos histoires. Nous avons parlé de la manière dont Dieu nous a fait sortir d'Égypte, ou peut-être d'un ami proche dont vous avez parlé, des choses avec lesquelles vous luttez peut-être, et de la manière dont Dieu vous montre comment les surmonter. La loi de Dieu est dans notre bouche. Il nous a été rappelé de mettre dans notre bouche des pains sans levain pendant 7 jours. Car c'est d'une main forte que le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte. Vous observerez donc cette ordonnance en son temps, d'année en année. Passons à un verset similaire, mais celui-ci, dans le Deutéronome, en ce temps toutes les années, les 40 années pendant lesquelles Israël a marché dans le désert, et Dieu a dû leur répéter une instruction très similaire, mais un peu, il l'a formulée un peu différemment. Peut-être qu'il a regardé ces leçons qu'Israël a traversées et qu'il s'est dit, peut-être que je devrais l'énoncer d'une manière différente sur le papier pour que les gens puissent le comprendre plus clairement. C'est le même principe. Et il dit ici, si vous êtes dans le Deutéronome, chapitre 6, et nous reprendrons au verset 4. Deutéronome signifie simplement la répétition de la loi de Dieu. Avant qu'il n'entre dans la terre promise, Dieu a demandé à Moïse de rappeler ma loi à mon peuple. Il dit au verset 4, « Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est un seul Seigneur, il est Dieu seul. Il est le seul Dieu que nous devons servir, et eux aussi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De toute votre âme signifie de toute votre vie. Tout ce que vous avez en vous, c'est-à-dire que c'est personnel. Ce ne sont pas seulement des mots sur du papier que nous lisons, frères et sœurs, c'est Dieu qui a voulu que nous fassions de sa parole une affaire personnelle. Nous voyons ici, et ces paroles, que je vous ai rappelées. Verset 6, seront aujourd'hui dans votre cœur. C'est un thème, frères et sœurs, qui n'est pas seulement apparu pour Israël pendant les jours des pains sans levain, et qui doit être présent dans les parties frontales de votre esprit, en y pensant dans votre bouche. Lorsque vous y pensez, vous commencez à en parler. Peut-être que vous priez à ce sujet, pendant la communion fraternelle, vous en parlez. Vous parlez peut-être de ce que vous avez appris, des erreurs que vous avez commises, des victoires que vous avez remportées, mais c'est censé être personnel. Cela doit être dans votre cœur. Dans votre cœur signifie au premier plan, au milieu de ce que vous êtes. Juste là, dans votre cœur. C'est là que Dieu voulait que sa parole soit, non seulement pour Israël, mais aussi pour nous, les frères, le peuple de Dieu. Nous pourrions simplement dire que l'un des principaux objectifs du plan de Dieu, c'est de faire passer sa parole du papier, ce qui est écrit sur le papier, aux gens. C'est pourquoi Dieu a utilisé des personnes. Il voulait montrer quelque chose de lui-même. Il voulait nous montrer des leçons que nous pouvons apprendre et combien il est merveilleux pour nous d'être à la fin des jours des pains sans levain, de penser à un thème comme celui-là, que Dieu, son but est de prendre ce qui est sur le papier et de le mettre en nous, d'en faire une partie de nous. C'est l'une des leçons. Frères et sœurs, aujourd'hui, en ce dernier jour des pains sans levain, nous allons explorer la manière dont la vérité de Dieu va au-delà des simples mots sur le papier, et se connecte à nous d'une manière très profonde et personnelle. Dieu ne veut pas que sa parole soit simplement sur le papier, il veut qu'elle soit dans les gens. C'est un concept très simple à comprendre ou à penser, mais encore une fois, Dieu aurait pu simplement nous donner sa parole et nous dire que nous devions y obéir, mais il a utilisé des personnes dont nous pouvons apprendre, dont nous pouvons grandir. Regardons frères et sœurs, nous allons diviser ce message en deux sections, et pour la première, nous allons expliquer ce que cela signifie, juste à partir de la parole de Dieu, en regardant étape par étape dans la parole de Dieu, ce que cela signifie de passer du papier à l'homme. La parole de Dieu, sa loi, son mode de vie, du papier à l'homme. Qu'est-ce que cela signifie? Nous pouvons y réfléchir, ce n'est pas seulement sur le papier. Nous lisons la parole de Dieu et vous pouvez la mettre sur votre lit, à côté de votre lit. Vous pouvez la voir sur votre téléphone. La parole de Dieu est sur papier pour nous chaque jour, chaque sabbat ou jour férié, nous l'avons sur nos genoux. C'est la parole de Dieu sur le papier, mais ce n'est pas suffisant. Quand Dieu dit, « Je veux l'avoir dans votre bouche, je veux l'avoir dans votre esprit, je veux l'avoir dans votre cœur », c'est un autre processus qui doit être mis en œuvre. C'est un processus différent qui doit avoir lieu. Et en particulier pendant ces jours de pain sans levain, nous pouvons y penser plus qu'à tout autre moment de l'année. Tournons-nous donc vers Jacques, chapitre 1. Ce n'est pas seulement une connaissance académique que Dieu veut que nous ayons. C'est bien, nous devons avoir la connaissance, s'éclaircir la gorge, mais c'est un peu différent d'une histoire que l'on raconte et que l'on peut réciter ou d'une simple connaissance que nous avons. Mais Dieu veut que sa parole, chaque parole qu'il nous a donnée soit dans notre cœur. Cela fait partie de son plan pour nous, mes frères. Et nous pouvons être encouragés par le fait que nous sommes des personnes qu'il a choisies et utilisées dans ce but. Des millions de personnes liront les versets que nous allons lire tout au long de la Bible et de ce message, mais elles n'ont pas la même compréhension que vous et moi. Lisons Jacques 1 et le verset 22. Un passage très familier. Tout le monde, rien de nouveau, rien de mystérieux en un sens, tout droit sorti de la parole de Dieu. Jacques 1, verset 22. Mettez la parole en pratique, et ne l'écoutez pas seulement, car vous vous trompez vous-même. Tout de suite, Jacques nous a donné des instructions pour que nous ne nous contentions pas de lire la parole de Dieu, pour que nous ne nous contentions pas d'acquérir des connaissances académiques. Ces choses sont intéressantes et nous devrions les connaître, mais nous ne devrions pas en rester à cette connaissance. Oh Dieu nous a donné des généalogies, où il nous a donné certaines choses qui peuvent être édifiantes pour nous et cela devrait être là, mais cela ne devrait pas être simplement de la connaissance. Il avait un but avec chaque mot qu'il avait écrit dans ce but, frères et sœurs, afin que nous ne soyons pas seulement des auditeurs, mais aussi des praticiens, car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non un praticien, il ne doit pas être un praticien. Pensez à ce petit enfant qui vient d'entendre l'histoire, qui la récite et qui continue sa journée. Parfois, l'histoire n'a pas d'impact sur eux et ils peuvent peut-être s'en souvenir pendant un certain temps, mais pour nous, l'instruction va plus loin. Il ne devrait pas s'agir uniquement de connaissances académiques et cela devrait nous enthousiasmer, vous et moi, frères et sœurs, lorsque nous y pensons, que Dieu nous a choisis. Il a utilisé des gens. Il nous utilise, vous et moi, pour prendre quelque chose qui n'est que sur le papier et qui est placé sur le papier pour qu'il devienne une partie de l'homme. Encore une fois, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel dans un verre. Combien avons-nous fait au cours de cette semaine où nous sommes allés au verre, au journal? C'est le verre que nous avons consulté. Nous n'avons pas regardé notre miroir dans la maison. Nous avons peut-être vérifié que nos cheveux étaient bien séparés avant la nuit de Pâques, que notre cravate était bien droite, tout cela, nous l'avons fait. Mais c'est le miroir spirituel auquel nous allions, le papier auquel nous pouvions aller. Et Dieu dit, si vous le lisez, le verset suivant au verset 24, car il se voit lui-même. Il peut voir, nous pouvons voir dans les pages, les mots de cette histoire non fictive, pour ainsi dire. Nous pouvons nous voir nous-mêmes. Il se voit lui-même. Il ne voit personne d'autre. Il se voit lui-même. C'est l'objectif du papier aux personnes. Rendre cela personnel. Mettez votre nom là, frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut faire avec vous et moi. Et il le fait, et il l'a fait pendant ces jours, et nous le verrons un peu plus tard, mais il va et va à sa manière et oublie immédiatement quel genre d'homme il était. C'est l'histoire des enfants. Souvent, ils oublient l'histoire. Combien de fois, vous et moi, avons-nous lu l'Écriture, puis 5 minutes plus tard, qu'ai-je lu ou qu'ai-je entendu dans ce message? Nous sommes tous des personnes. C'est l'une des choses dont nous devons nous rendre compte. Nos souvenirs ne sont pas toujours les meilleurs. Pourquoi Dieu répète-t-il sans cesse que nous devons respecter le sabbat et les fêtes chaque année? Il veut nous le rappeler parce que nous sommes des êtres humains. Il s'en va et oublie quel genre d'homme il était. Mais Russell regarde la loi parfaite de la liberté, regarde le papier, regarde la loi de Dieu, regarde son mode de vie, regarde la vérité, et continue dans cette voie. Il n'est pas un oublié ici, mais un exécutant de l'œuvre. Cet homme sera béni dans son action. C'est ce que nous avons fait tout au long des jours des pains sans levain, mes frères. Et lorsque nous avons regardé et regardé ce miroir encore et encore, ce n'était pas seulement un processus académique que nous avons traversé. C'est la 5e année que j'ai l'occasion de célébrer la Pâque pendant les jours des pains sans levain, ou c'est la 10e année, ou c'est la première année. Il ne s'agit pas simplement d'un processus par lequel nous sommes passés. C'est Dieu qui écrit sa parole dans nos cœurs. Nous sommes allés et nous l'avons regardé. Mais ce n'est pas facile à faire. Il n'est pas facile pour nous de ne pas oublier. Nous oublions tous, comme les enfants. Plus on vieillit, plus il faut se le rappeler. Écrivez des rappels pour vous-même. J'ai une application sur mon ordinateur où certains jours, même avec la Pâque, j'ai fait un compte à rebours des jours et de la nuit à venir et certains autres jours ont juste un compte à rebours pour que vous vous rappeliez. Il y a tant de choses dont nous devons nous souvenir. Nous pouvons facilement les oublier. Mais ce que je veux dire ici, frères et sœurs, c'est que le fait d'expliquer ce concept de passer du papier aux gens et de le garder sur papier n'est qu'une connaissance académique. Mais Dieu nous enseigne le contraire ici dans Jacques, mais il nous a donné un exemple. Allons au chapitre 1 de Jean. Regardons ce verset sous un angle un peu différent. Jean, chapitre 1. Nous pouvons commencer au verset 1, puis nous irons au verset 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il en était de même au commencement avec Dieu. Jean 1, verset 1 et verset 2. Toutes choses ont été faites par lui, verset 3, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En, il y avait la vie et la vie était la lumière des hommes. Vous et moi avons lu ce verset et ce passage tellement de fois que nous ne réalisons pas dès le départ que quelqu'un lira peut-être ce verset et ne le comprendra pas. Nous avons l'occasion de comprendre le verset qui parle de la parole, le logo signifiant la Bible, la parole, et qui commence à parler d'une personne. Nous arrivons au verset 13, qui parle évidemment du Christ. Ils sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair d'un peuple, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu, et la parole a été faite chair. Et le Verbe s'est fait chair. La parole est passée, à titre d'exemple, du papier aux personnes, à une personne, à un exemple que vous et moi avons. Dieu ne voulait pas que sa parole soit comprise de manière académique. Il ne voulait pas que ses paroles soient simplement crachées. Il aurait pu le faire en un instant, en un clin d'œil, mais il a décidé de prendre beaucoup de temps pour le faire, pour travailler avec les gens. Et l'une de ces personnes est celle à laquelle nous avons pensé pendant la Pâque, celle qui nous a donné son sang et son corps pour que vous et moi puissions traverser les jours des pains sans levain et apprendre les leçons que nous apprenons, mais aussi pour faire pénétrer sa vérité, sa parole en nous pour que nous puissions le faire, parce qu'il était cet exemple. Il a habité parmi nous. Encore une fois, Christ était personnel. On pouvait lui parler. Vous pouviez aller manger avec lui. On pouvait lui poser des questions. Les gens le détestaient. Ils avaient des idées sur lui, bonnes ou mauvaises, mais on pouvait aller le voir. Il s'est fait chair. On pouvait le toucher. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du seul enfant du Père, plein de grâce, plein de faveur envers nous, et de vérité. Christ était rempli de la parole de Dieu. Il était la parole de Dieu. Il était la parole de Dieu en tant qu'exemple, et nous allons le marteler encore et encore pour que nous sortions simplement aujourd'hui et que nous nous souvenions de ce simple exemple, de cette simple leçon, frères et sœurs, que Dieu veut sa parole en nous, en vous et en moi. C'est son but lorsque nous devenons comme lui. Il écrit sa parole en nous et Christ en était plein. Il était plein de faveur. Il avait de la faveur pour les arbres, il avait de la faveur pour les plantes. Certes, il aimait les plantes, il les a créées. Nous lisons qu'il les a créées. Il a créé les animaux. Il a créé les papillons. Il a tout créé, mais il était plein de grâce envers les gens et plein de vérité, plein de la parole de Dieu. Il était l'exemple que vous et moi devrions imiter à l'avenir. Maintenant que les jours des pains sans levain se terminent, que devons-nous faire pour accomplir cette leçon? Vous verrez que vous avez fait cela tout au long des jours, en passant par les jours des pains sans levain avant le passage jusqu'à maintenant plutôt que ce que vous et moi avons fait, mais comment allons-nous rester? Nous l'avons entendu si souvent. Comment resterons-nous les onze à l'avenir lorsque nos souvenirs commenceront peut-être à nous faire perdre ce que nous avons écrit sur le papier, qui nous sommes et ce que nous sommes? Passons à Jean 7 et reprenons au verset 15. Plus vous le lisez, plus vous voyez de petites choses jetées là que Dieu veut que nous comprenions qu'il veut que sa parole soit imprimée sur du papier pour les gens, même ceux qui haïssent Christ. Le verset 15 dit: les Juifs étaient dans l'étonnement, disant, « Comment cet homme connaît-il les lettres, les mots, comment sait-il même lire ?» À l'époque, ils méprisaient Christ. Ils n'avaient pas fréquenté les collèges ou les écoles ministérielles, ou ce qu'ils avaient, les universités. Dans leur esprit, ils n'étaient pas appris. Comment peut-il connaître les lettres? Comment sait-il apprendre? Il ne le sait pas. Nous ne pensons même pas qu'il ait des connaissances. N'ayant jamais appris, Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas la mienne, mais celle de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra la doctrine, soit qu'elle vienne de Dieu, soit que je parle de moi-même. Ainsi, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui la vivent activement, ceux qui passent du papier à l'homme, ceux-là pouvaient discerner que Christ était le vrai Christ alors que les autres étaient dans l'obscurité. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai et, il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et pourtant aucun d'entre vous ne l'observe? Vous l'avez sur le papier. Dit Christ. Vous ne comprenez pas tout. Ne pouvez-vous pas revenir à la leçon de l'Égypte? Ne pouvez-vous pas revenir au fait qu'Israël a été appelé à sortir de l'Égypte physique dans le but de sortir de l'esclavage? Ne pouvez-vous pas vous souvenir de ces leçons? Christ leur dit, vous les avez sur papier, vous les lisez probablement chaque jour. Vous méditez à ce sujet. Vous écrivez des articles à ce sujet. Vous êtes tellement instruit que vous pouvez avoir des conversations à ce sujet, mais ce n'est pas dans votre cœur. Cela ne fait pas partie de vous. Ce n'est pas ce que vous êtes. Christ leur dit en substance, « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et pourtant aucun de vous ne l'observe? Pourquoi vous apprêtez-vous à me tuer? Ils ont oublié. Ces hommes très intelligents ont oublié les 10 commandements. Ils oublient que Dieu a dit qu'il ne fallait pas tuer. Et ils ont été trompés, ils se sont trompés eux-mêmes, et ils ont voulu tuer Christ. » Verset 22, « Moïse vous a donc donné la circoncision physique, non parce qu'elle vient de Moïse, mais des pères, et vous avez circoncis un homme le jour du sabbat. Vous accomplissez la lettre de la loi, dit Christ. Vous faites ce que Moïse vous a dit de faire. Vous pouvez le lire et vous l'appliquer. Mais si, le jour du sabbat, un homme est circoncis pour que la loi de Moïse ne soit pas violée, êtes-vous en colère contre moi parce que j'ai fait de l'homme un être entier? Je pense que nous avons entendu cela un peu plus tôt aujourd'hui, avec le tout entier le jour du sabbat. Christ voulait parler, non pas de la circoncision physique. Il leur a montré, peut-être avec sa sagesse, comme Dieu le dit, nous devons être sages comme des serpents et inoffensifs comme des colombes. Il leur a montré. Vous parlez de la circoncision physique, je parle de la circoncision du cœur. Vous ne comprenez pas. Soit vous avez appris, soit vous ne comprenez pas ce que j'essaie de dire. J'essaie de vous donner un concept simple, de vous faire comprendre qu'il faut partir de la parole de Dieu, qu'il faut passer du papier aux gens, mais ils l'ont rejeté. Pas vous et moi, frères et sœurs, vous et moi l'acceptons. Nous avons traversé les jours des pains sans levain. Nous ne devons pas oublier les leçons que nous avons apprises. La Pâque. Oui. Comme je l'ai dit au début, nous étions ensemble dans un mode de dégrisement, puis des choses spécifiques se sont produites, nous avons pleuré ensemble et nous avons ri ensemble. Nous sommes passés par des émotions. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes des personnes. Dieu utilise son peuple pour faire germer sa parole en nous. C'est ce qu'il fait et a fait. Et je vous montre simplement, à travers les Écritures, les façons simples dont Dieu en parle. Et nous allons voir un peu plus loin comment agir et continuer à nous rappeler pendant les heures qui viennent et les jours qui viennent aussi. Matthieu 23. Matthieu, chapitre 23, Et nous reprenons au verset 23. Il est dit. Attendez un instant. Matthieu 23 et le verset 23. Je veux que tout le monde puisse lire l'Écriture avec moi. Malheur aux scribes et aux pharisiens, hypocrites. Frères et sœurs, nous pouvons facilement regarder les pharisiens et dire qu'ils sont hypocrites parce que Christ a dit qu'ils étaient hypocrites. Ce sont les pharisiens. Nous voulons être sûrs de le savoir. Nous pouvons lire cela. Mais il y a aussi une leçon pour nous. Lorsque vous et moi nous regardons dans ce miroir pendant les jours des pains sans levain, nous ne nous contentons pas de lire pharisiens, hypocrites. Nous nous arrêtons un instant et nous disons, attendez un peu. C'est un miroir que je regarde. Il y a peut-être une attitude hypocrite en moi. Où je pourrais agir de temps en temps. Il se peut que Dieu vous le montre et que vous soyez surpris de ne pas l'avoir vu. Ensuite, nous le remercions pour le fait que ce principe a fonctionné dans nos vies au cours de cette semaine, car vous payez la dîme et la mente. Ce n'étaient pas des gens qui n'obéissaient pas à Dieu, ils respectaient chaque petit détail de la loi. Ils lisent donc la loi sous toutes ses coutures et en recherchent toutes les significations. Christ a dit, « Et l'anis et le cumin, et vous avez émis les choses les plus importantes de la loi, le jugement, la miséricorde et la foi. C'est ce que vous auriez dû faire. Vous auriez dû faire le jugement, la miséricorde et la foi. Pensez aux gens, frères et sœurs, pour apprendre, pour avoir du jugement. Vous pouvez lire sur le jugement. Vous pouvez consulter une définition en ligne sur le jugement. Vous pouvez lire des livres à ce sujet. Mais pour l'avoir vraiment en soi, il faut toute une vie. Il faut apprendre à travailler avec les gens, à parler avec les gens, à faire des erreurs, à avoir des victoires et des échecs. Parfois, on a raison, parfois on a tort, mais on apprend à juger. On apprend à discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. On commence à apprendre ce que signifie que la parole de Dieu est en nous. Ces choses, les pharisiens ne voulaient pas les entendre. Ils n'avaient aucune pitié à l'esprit parce qu'ils n'avaient pas besoin de pitié. Ils disaient, « Je suis plus haut que toi, je suis plus saint que toi. » Ils méprisaient Christ, nous l'avons déjà vu. Et la foi, qu'est-ce que la foi? Nous croyons ce que nous lisons et nous le faisons, donc nous sommes justes. Ils ont oublié les leçons, mes frères et sœurs, ces trois mots, vous et moi les avons peut-être saisis pendant ces jours et ils vous ont peut-être fait voir où vous allez bien et où vous et moi ne sommes peut-être pas à la hauteur. Christ a dit, il faut faire ces choses et ne pas laisser les autres en suspens. Donc la lettre de la loi pour la connaître est évidemment importante. Nous devons lire et étudier, nous le verrons au fur et à mesure, mes frères, mais nous devons aller plus loin. Nous ne devons pas nous contenter de l'académique. Nous ne devons pas nous contenter de la lettre de la loi. Nous devrions nous pencher sur les questions les plus importantes du mode de vie de Dieu, et ces questions sont personnelles. Ce sont les choses où les gens sont impliqués, soit nous en tant que peuple de Dieu travaillant ou traitant les uns avec les autres, soit nous envers Dieu, qui est aussi une personne, soit d'autres personnes dans le monde. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Et cela devient un peu plus délicat, n'est-ce pas? Apprendre à avoir du jugement, de la foi et de la miséricorde. Ce sont des facteurs personnels. Il est plus difficile pour nous de travailler avec un conjoint non converti ou avec un employeur à qui l'on demande de, ou d'aller à l'école en demandant des jours de congé pour les jours des pains sans levain, cela devient une chose personnelle que vous devez faire. Comment puis-je approcher mon patron ou mon professeur pour demander ces choses? Nous devons apprendre à le faire. C'est personnel. Ce n'est pas seulement quelque chose sur papier. Mais Dieu a décidé d'utiliser des personnes dès le début. Deuxième Timothée, allons-y. Le Père est Christ. Le Père aurait pu dire, je suis occupé avec X, Y, Z. Je ne vais pas. Je n'ai pas le temps d'écrire l'Ancien Testament. Allez-y, écrivez l'Ancien et le Nouveau Testament. Ou Christ aurait pu dire, Père, je suis occupé à créer, s'il te plaît, tu peux écrire. Ou il pourrait dire que nous pouvons écrire des chapitres. Nous nous amusons un peu avec cela, frères et sœurs, mais Dieu n'a pas décidé de faire cela. Il a décidé dans 2 Timothée 3, verset 15. Nous pourrions peut-être reprendre au verset 14 pour avoir un peu de contexte. Mais persévérez dans les choses que vous avez entendues. Nous avons beaucoup entendu ces jours-ci, frères et sœurs, et dont vous avez été assurés, sachant de qui vous les avez apprises. D'une personne, vous l'avez appris de Paul ou de Timothée dans leur cas, ou de la parole de Dieu ou de Pilo Magazine ou d'un message récent d'un ministre. Dès l'enfance, vous avez connu les saintes Écritures, qui peuvent vous rendre sage à salut par la foi qui est dans Christ Jésus. Toutes les Écritures sont inspirées par Dieu. En pensant à notre thème et à notre objectif aujourd'hui, Dieu avait un plan à l'esprit. Il avait un plan à l'esprit pour qu'il soit inspiré. Il aurait pu le faire lui-même, mais il ne l'a pas fait. Il a utilisé des hommes pour l'écrire, pensez à Moïse. Il avait un problème de colère. À un moment donné, il n'avait pas confiance en sa vie. Peut-être était-il dépassé par les événements, mais à un moment donné, il a dû travailler et porter des jugements. Il a dû apprendre à juger quand Dieu l'a appelé. Dans le buisson, il a dit « Je ne peux pas parler. Je ne peux pas penser et je ne peux pas parler. Ma bouche ne fonctionne pas et mon esprit ne fonctionne pas. » Dieu lui a dit « Non, je veux que ma loi soit dans les parties frontales de ta tête et dans ta bouche. Tu agiras et tu seras celui qui fera sortir les Israélites, puis tu jugeras des millions de personnes chaque jour. » C'est un récit que Dieu a écrit pour nous, qu'il a eu des problèmes de colère, qu'il n'a pas été autorisé à aller dans la terre promise à cause des erreurs qu'il a commises. Mais Moïse sera-t-il dans le royaume de Dieu? Va-t-il occuper une position élevée pour que Dieu utilise une personne qui a eu cette expérience? Il voulait que sa loi, sa parole, son mode de vie soient en lui, et c'est un exemple. Israël, qui a été utilisé pour écrire, et tous les apôtres qui ont été utilisés pour écrire la parole de Dieu, ils ont eu quelques problèmes. Pierre, très confiant en lui-même, mais quand le pneu a rencontré la route, nous lisons cet exemple que Pierre a lutté. Il n'avait pas la foi dont il avait besoin à ce moment-là, ni la confiance que Dieu exigeait de lui. Il n'avait pas encore la parole de Dieu sur papier, mais il a écouté ce que Christ a dit. Il écoutait ce que Christ disait. Il était là avec lui, mais la parole n'était pas encore en lui comme elle aurait dû l'être. C'est aussi un processus que nous développons tous, mes frères. Nous recevons cet acompte de l'Esprit de Dieu lors du baptême, et nous pouvons ensuite le faire croître. Mais encore une fois, Dieu a utilisé, il a inspiré des gens. Parlant de l'Esprit de Dieu, allons à Jean 14. L'une des leçons, frères d'Israël, que nous pouvons apprendre d'eux est le fait que Dieu leur a donné sa loi, et qu'il voulait qu'elle soit dans les parties intérieures. Il leur a donné cette instruction, mais il ne leur a jamais été proposé d'avoir l'Esprit de Dieu. Nous lisons ici ce que fait l'Esprit de Dieu au verset 26 du chapitre 14. Mais le Consolateur, qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que j'ai écrit, Christ nous le dit, mais aux disciples, les choses que vous avez entendues, lorsque l'Esprit de Dieu viendra et que vous le recevrez, il vous aidera. Il prendra ce qui est sur le papier et ce qui est écrit en vous pour vous aider, à un niveau personnel, à vivre le mode de vie de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de connaissances académiques, mais aussi de la manière de juger, d'avoir de la miséricorde, de vivre en paix ou de tout ce que nous avons développé ces jours-ci. Comment le mettre en œuvre dans sa propre vie? Nous ne parlons pas spécifiquement de la manière dont nous le faisons. Nous parlons simplement du fait que Dieu est. Il est disposé à le faire et il veut que nous l'ayons en nous. Et l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, plus vous et moi en avons. Et c'est ce qui s'est passé au cours de ces jours où nous avons éliminé le péché de nos vies. Plus nous en avons, plus cela nous aidera à nous souvenir. Si vous êtes jeune dans la foi ou si vous êtes dans la voie de Dieu depuis de nombreuses années, ces mots vous reviendront en mémoire. Mais il faut aller lire. Vous devez aller et regarder le papier, pour ainsi dire, pour que son esprit soit actif, celui que nous avons entendu M. Pack mentionner dans ses messages, nous avons la Bible sur vos genoux et celui dans notre esprit où Dieu nous a donné son esprit dans les parties frontales de notre esprit, et au cours de ces jours, nous allons repartir avec plus de cela. Nous avons en fait construit par le biais d'un processus, nous avons construit plus de ce qui est sur papier en nous, plus qu'à n'importe quel autre moment de l'année et nous verrons pourquoi c'est si difficile et les leçons que nous tirons de cela, frères et sœurs, sont nombreuses. Vous pouvez être dans n'importe quelle situation, sans même avoir une Bible avec vous, et vous pouvez invoquer Dieu, un passage des Écritures peut vous venir à l'esprit. Vous en faites souvent l'expérience. Peut-être qu'avant les jours des pains sans levain, l'Esprit de Dieu s'est un peu affaibli en nous, mais il nous a donné ces jours et nous l'avons ravivé et vous commencez à vous souvenir, « Oh, oui, je me souviens de cette Écriture. » Vous allez sur la route ou vous discutez avec quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile, « Comment dois-je faire face à ceci ou à cela ?» Et une Écriture vous vient à l'esprit, c'est ainsi qu'il faut agir avec quelqu'un. Ou voici comment vous devriez penser. Ou encore, c'est ainsi qu'il faut agir. Ou encore, non, nous ne faisons pas cela. C'est la parole de Dieu qui est en nous, frères. Vous n'aviez même pas le papier avec vous, il est en vous. Cela devrait nous encourager à savoir que la parole de Dieu est déjà en nous et qu'elle l'a construit de plus en plus en nous. Prenons un exemple dans le chapitre 6 de Matthieu. Ce n'est qu'un exemple. L'un des thèmes de ces jours, frères et sœurs, est la Pâque. Les choses pour lesquelles nous avons crié à Dieu à genoux. Matthieu chapitre 6, verset 14, il est dit, dans la prière modèle, à la fin, Matthieu chapitre 6 et verset 14, « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si nous travaillons avec les gens d'une certaine manière, il nous pardonnera. Si nous nous pardonnons les uns aux autres. » Il a dit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. » Allons à Colossiens, chapitre 3, verset 13. En passant du papier aux personnes, ces choses deviennent-elles réelles dans nos vies et pouvons-nous apprendre ces leçons et nous forger le caractère dont nous avons tant besoin dans les jours qui viennent? Colossiens 3, verset 14. Supportez-vous les uns les autres, ce qui signifie, que signifie cette tolérance? Cela signifie supporter. Parfois, les gens doivent me supporter. Vous riez trop fort. Vous savez que nous sommes des personnes. Parfois, les gens doivent nous supporter, supporteurs nos bassesses, nos bizarreries, nos défis ou nos échecs, mes frères. Mais Dieu dit que nous nous supportons les uns les autres. Nous nous supportons les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes tous engagés dans ce processus de construction de la parole de Dieu, la faisant passer du papier à l'homme. Je poursuis en disant, Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous les uns aux autres. Si quelqu'un a des reproches à se faire, comme Christ vous a pardonné, faites-le vous aussi. Imaginons que nous lisions ce verset à un autre moment de l'année, nous pourrions nous dire, oui, Christ nous a pardonné pendant les jours de la Pâque. C'était il y a 5 mois, mais maintenant c'était il y a un peu plus d'une semaine. C'est tout frais dans notre esprit. C'est tout frais en nous. Il est passé du papier à l'homme, mais il n'est pas encore nécessairement en pleine croissance. C'est possible, mais nous y pensons plus souvent qu'à notre tour. Mais nous devons faire activement ce que ces versets disent, frères et sœurs, pour rendre cela possible, pour faire grandir la parole de Dieu en nous. Comme Dieu vous a pardonné, faites de même. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu nous aide. Encore une fois, si vous regardez sur le papier, il est important de se regarder dans le miroir, et nous l'avons fait, pour voir la poutre dans nos propres yeux, et ensuite la paille dans les yeux de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez voir qu'un objet de 4 mètres sur 4, soit 8 pieds de long. Je me souviens qu'il y a quelques semaines, peut-être 2 mois, mon fils et moi voulions construire une table et nous devions acheter certaines longueurs de bois. Et l'un des pieds de la table est juste un gros. Je ne me souviens pas s'il fait 10 cm sur 10 cm, mais imaginez ce qui sort de ma tête pendant que je parle. Je regarde autour de moi, je frappe le microphone et l'eau, et cela se voit dans mes yeux, mais je m'amuse simplement ici devant. Mais c'est ce que Dieu veut que nous voyions, frères et sœurs, la poutre dans nos propres yeux, et peut-être que ce que votre frère ou votre sœur a n'est qu'une tache, mais nous nous concentrons parfois sur cette tache dans leurs yeux. Mais lorsque nous nous en rendons compte, que nous agissons en conséquence et que nous faisons ce que Dieu nous demande, alors nous construisons, mes frères, et nous passons du papier à l'homme. Examinons le processus que j'ai mentionné, le processus très intense qui s'est produit, avant de passer à la deuxième partie du message. 1 Corinthiens, chapitre 5. Premier chapitre des Corinthiens. Vous avez probablement lu ces versets sur le papier il y a quelques jours, plusieurs fois. Premier chapitre des Corinthiens, chapitre 5. Et nous lisons au verset 7. Purgez donc le vieux levain, afin que vous soyez une masse nouvelle. À la Pâque, nous sommes devenus une masse toute neuve. Comme vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est pourquoi nous célébrons la fête, sans faire de vieux levain. La première fois que j'ai appris, frères et sœurs, à connaître les jours saints de Dieu, j'ai été frappé de voir dans le Nouveau Testament qu'il n'y a pas seulement le fait qu'ils ont célébré la Pentecôte, comme l'a dit Paul, mais qu'il y a une instruction qui dit « Observez la fête des jours des pains sans levain ». C'est une instruction. Pas avec du vieux levain, nous éliminons ce levain. Le levain physique, nous l'avons chassé de nos maisons. Ils sont restés dehors. Peut-être nous sommes-nous réveillés et avons-nous vu dans l'armoire quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. Ce n'est pas avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Christ est le pain de la sincérité et de la vérité que nous avons mangé si nous avons participé à la Pâque. Mais passons au 2 Timothée. Nous y étions un peu plus tôt, en pensant au pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Nous avons reçu que nous étions une nouvelle masse, mais ensuite, frères et sœurs, pendant tout ce processus, quelque chose s'est passé ici dans le 2 Timothée, et nous lirons le verset 2 et le verset, le chapitre 2, excusez-moi, et le verset 15. Efforcez-vous de vous montrer digne de Dieu, un ouvrier qui n'a pas à rougir de sa réputation, en divisant avec justesse la parole de la vérité étudiée pour vous montrer approuvé. Nous savons que le mot grec pour cela est dokimo. Et qu'est-ce que cela signifie? Pensez à ce que vous et moi avons vécu les jours des pains sans levain, à l'examen de conscience, à l'épreuve du miroir, du papier de la parole de Dieu. Et de produire de la sincérité et de la vérité. Il s'agissait d'un processus selon lequel quelque chose partait du papier, que vous et moi lisions, et lorsque vous avez fait cela, lorsque vous vous êtes examiné, vous avez en fait commencé à produire quelque chose en vous, et c'est la sincérité et la vérité. C'est la parole de Dieu. C'est la vérité de Dieu. C'est la loi de Dieu, qu'il voulait que. Nous avons dit dans l'Exode, nous lisons dans l'Exode, que Dieu veut que même l'Israël de l'Ancien Testament ait, vous et moi l'avons fait. Parce que nous avons traversé, nous avons déjà construit certaines choses dans nos vies, mais elles peuvent rester, et nous pouvons les renforcer, ou nous pouvons les oublier et elles peuvent tomber sur le bord du chemin. C'est à nous, frères, de continuer à agir. Et c'est ce dont nous voulons continuer à parler dans la seconde moitié de ce message, c'est de passer en revue deux ou trois choses, frères et sœurs, qui nous aideront à rester sans levain. Ce processus qui a eu lieu, nous avons éliminé le péché physique, et nous avons éliminé le péché, ou, le levain physique, excusez-moi, et nous avons éliminé le péché de nos vies. Maintenant nous voulons continuer à être capables de passer du papier aux gens, continuer à construire la parole de Dieu et sa loi en nous. Continuer à grandir, continuer à avoir plus d'esprit de Dieu. Comme Christ était plein de vérité, nous voulons en être remplis chaque jour, pas seulement pendant les jours des pains sans levain, mais chaque jour de notre vie, et c'est un énorme défi. Ce n'est pas facile à faire. La première chose à faire est très simple. Rappelez-vous que Dieu utilise des personnes. Quel type de personnes Dieu recherche-t-il pour écrire ses lois, sa vérité dans leur cœur? Examinons l'Épître aux Romains. Quel type de personnes? Encore une fois, en pensant à ces jours que nous avons vécus, vous reconnaîtrez immédiatement ce que je vais vous lire, frères et sœurs, et vous réaliserez que vous êtes ce type de personne. Je suis l'une de ces personnes. Il n'y a rien d'étrange à cela. Romains, chapitre 7 et verset 14. Car nous savons. Verset 14. Car nous savons que la loi est spirituelle, et que je suis charnel. Je suis chair. Je peux faire des erreurs. Vendu au péché. C'est Paul, un apôtre du Christ, qui l'a dit, mais c'est aussi une personne que Dieu a utilisée pour nous donner cette leçon. Dieu aurait pu simplement écrire, « Il y a une personne appelée Paul dans ma Bible, dans ma parole, et il a dit ce qui suit, mais cela n'aurait pas rendu la chose personnelle. » Nous nous intéressons maintenant à la personne qui a réellement vécu. Il ne s'agit pas d'une fiction. C'était un homme qui vivait. Il ressentait cela. Il pensait ainsi. Verset 15. Car ce que je fais, je ne le permets pas. Ce sont des choses qui nous viennent à l'esprit, frères et sœurs, au cours de ces jours, des choses que l'on se surprend à faire, et ensuite, en y réfléchissant, on se rend compte, pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi ai-je permis cela? Ce que je veux, je ne le fais pas. Vous êtes une personne. Nous sommes des personnes. C'est ainsi que notre esprit fonctionne naturellement. Les choses que nous voulons faire, nous ne les faisons généralement pas. Les choses que nous ne voulons pas faire, elles viennent naturellement, et c'est une bataille que vous et moi menons, frères et sœurs, chaque jour, comme Paul l'a fait. Cela devrait vous réconforter, frères et sœurs, que Dieu a utilisé un homme qui, comme Moïse, va avoir un rang plus élevé dans le gouvernement de Dieu, dans son royaume, et il nous donne un aperçu de son esprit, pas seulement ce qui est sur le papier. Ce qu'il y avait dans son esprit charnel, peut-être là où il n'y avait pas encore beaucoup de paroles de Dieu dans sa vie. Si donc je fais ce que je ne voudrais pas, je reconnais à la loi qu'elle est bonne. Il dit que ce qui est sur le papier est bon. C'est spirituel. Quand vous y allez, vous pouvez savoir que vous regardez la vérité. Nous devons apprendre à discerner, mais c'est la vérité. Ce n'est donc plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. C'est quelque chose que vous et moi pouvons reconnaître profondément, frères. Nous sommes en lutte. Nous sommes chrétiens, nous avons l'Esprit de Dieu, mais il y a toujours cet esprit charnel qui entre en conflit avec notre esprit spirituel, l'esprit qui travaille en nous. Et plus nous passerons du papier à l'homme, plus vous et moi serons capables de résister à cet état d'esprit décrit ici par Paul. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, je suis un être humain, il n'y a rien de bon, car la volonté est présente. Nous voulons faire ce qu'il faut. Vous et moi, lorsque nous nous parlons, nous disons, « Je veux faire ce qu'il faut. » « Je veux faire ce qu'il faut, mais quand je me suis trouvé moi-même, je ne l'ai pas fait. » Mais alors vous pouvez reconnaître que c'est le vieil homme, frère qui devrait mourir. Dieu nous aide à traverser cela pour savoir que cet homme, c'est celui qui, lorsque j'ai vécu la Pâque, c'est celui qui veut venir ici à travers la cuve de conseil du baptême, qu'il se faufile et qu'il respire à nouveau et qu'il veut s'extraire de la cuve du baptême. Il veut respirer à nouveau. Il veut faire partie de ma vie. Il veut écrire à nouveau ses pensées dans mon esprit et nous sommes constamment en train de mener cette bataille dans notre esprit. En moi, il n'y a rien de bon. Car la volonté est présente en moi, mais je ne trouve pas comment accomplir ce qui est bon. Car le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Maintenant, si je fais ce que je ne veux pas, c'est presque un virelangue, un slob du porte-parole. Je devrais commencer à préparer un message sur le fait que ce que je veux faire, je ne le fais pas, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc une loi qui veut que lorsque je veux faire le mal est présent en moi. Le mal peut parfois être présent dans notre esprit lorsque nous voulons faire ce qui est juste, et nous devons alors apprendre à discerner entre les deux. C'est le jugement dont Christ a dit qu'il s'agissait des questions les plus importantes de la loi, et nous avons tous du mal à le faire. Et nous sommes parfois bons dans ce domaine, parfois moins bons. Car je prends plaisir à la loi de Dieu après. Quoi? Juste en lisant? Non, je fais mes délices dans mon cœur. J'ai le désir d'obéir à Dieu et c'est le peuple que Dieu recherche, frères et sœurs, qui veut la parole de Dieu à l'intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres, verset 23, qui fait la guerre à la loi de mon esprit, cette lutte, et qui me rend captif, qui me ramène en Égypte, qui veut me ramener à la servitude. Tel est l'objectif. Ce matin, nous avons entendu les leçons d'Israël. Ils ont voulu faire demi-tour, ils ont regardé les belles choses. Ils ont oublié qu'ils étaient en esclavage. Nous pouvons aussi en tirer des leçons. Malheureux que je suis. Paul a commencé à se rendre compte d'une chose, malheureux que je suis. Qui me délivrera du corps de la mort? Je remercie Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par l'intelligence, je sers la loi de Dieu, mais par la chair, la loi du péché. Frères et sœurs, il est parfois bon de savoir que nous sommes des personnes, mais cette bataille demeure et ce n'est qu'avec l'aide de Dieu, frères et sœurs, que nous pouvons continuer à penser à ces trois ennemis que vous et moi combattons chaque jour, le moi, la société et Satan, que nous devons combattre en permanence. Mais nous nous demandons quel type de personne Dieu recherche. Au psaume 34, nous avons vu un peu de Paul. C'était un homme sur lequel les yeux de Dieu étaient posés. Allons au psaume. Psaume 34, versets 18, chacun, et 19. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit contrit, un cœur brisé, un esprit contrit. Est-ce que vous et moi avons fait cela au cours de ces jours? J'en suis sûr, frères et sœurs, car ce que nous voyons nous amène parfois à ce point. Et c'est ce que Dieu recherche lorsqu'il écrit. Pas seulement quand elle est en nous, mais quand la parole de Dieu commence à grandir en nous. Elle ne doit pas seulement être en nous, frères. Elle ne devrait pas être seulement dans notre bouche, dans notre esprit. C'est dans notre cœur que nous voulons le faire et que nous devons le faire aussi, et c'est alors que nous commençons à forger notre caractère. Mais c'est le cœur que Dieu veut pour vous et moi. Verset 19. Nombreuses sont les afflictions des justes. C'est une épreuve à traverser. Rien que l'étude de la Bible et l'examen de conscience que nous avons fait peuvent être une affliction. Parfois, nous traversons d'autres afflictions dans notre vie. Des justes. C'est encourageant d'entendre que Dieu dit que le juste passera par des afflictions, mais que le Seigneur le ou la délivrera de 50% d'entre elles, ou 20% de vos afflictions, Dieu, peut-être 10%. Si vous êtes suffisamment juste, il ira peut-être au-delà de 50%. Ou peut-être que si vous êtes vraiment juste, il ira jusqu'à 75%, mais le reste dépend de vous ou de moi. Non, il dit que tout cela n'a pas d'importance. Chaque affliction que vous et moi avons, frères et sœurs, pour pouvoir continuer à construire la loi de Dieu en nous, pour continuer à passer du papier à l'homme. Il doit nous délivrer. C'est une promesse. C'est personnel. C'est une promesse qu'il nous donne, à vous et à moi, et à laquelle nous pouvons nous accrocher. La deuxième, frères et sœurs, allons à Ésaïe 66. Reliez les deux pensées ici. Rappelez-vous que nous sommes des personnes. Dieu utilise des personnes. Nous avons examiné le type de personnes qu'il recherche. Faisons le lien avec le point suivant et lisons Ésaïe 66, verset 2. Nous avons probablement lu ces versets plusieurs fois au cours de ces jours. Toutes les choses que ma main a faites, toutes les choses qui ont existé, dit l'Éternel. Mais à ceci. Et cet homme est en italique, donc Dieu dit à ceci. Il nous appelle amis, frères. Il nous a donné de participer au sang du Christ et à son corps pendant la Pâque. Il nous dit, vous êtes petits. Je suis Dieu. C'est à cela que je vais m'intéresser. Il regardera vers vous et moi, vers celui qui a l'esprit pauvre et contrit. Là, nous avons vu les personnes qu'il recherche, mais maintenant, et qui tremblent à ma parole. Vous et moi, ces jours-ci, nous nous sommes mis dans une position, mes frères, où nous tremblons. Nous tremblons en pensant que si je n'élimine pas ceci de ma vie, si je ne garde pas ce péché, nous avons éliminé le péché physique de nos maisons. C'était déjà difficile. Parfois, nous commettons une erreur et nous pouvons en plaisanter, mais lorsque nous regardons le péché spirituel, nous nous disons, « Je ne veux pas que cela revienne dans ma vie. Cette chose est en train de venir. Je le traîne comme un prisonnier avec ce boulet derrière le boulet et la chaîne. Je le traîne depuis trop longtemps. Cela nuit à ma croissance. Cela entrave ma capacité à grandir en passant du papier aux gens pour faire grandir la loi de Dieu en moi. Je ne veux pas que cette année se poursuive avec ce problème. Nous avons peur, nous tremblons, nous détestons le mal. On le déteste tellement qu'on tremble physiquement devant la parole de Dieu quand on la lit sur le papier. Lorsque vous la lisez, vous commencez à tomber devant Dieu, et vous tremblez physiquement devant lui, à cause de ce que vous lisez, de ce que vous comprenez, à quel point c'est personnel, et à quel point il se sent fort pour que vous et moi soyons capables de vaincre. Mais avec son esprit, mes frères, nous sommes capables de le faire. Il veut et continuera à nous aider à rester sans levain, mais vous et moi devons rester dans la crainte de Dieu. C'est le deuxième point. Revenons au psaume. Psaume 33, et nous ne lirons que le verset 18. Vous pouvez aller, frères et sœurs, et lire tout le psaume pour votre propre étude biblique, mais au verset 18, il est dit, « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde. » C'est ce que nous espérons lorsque nous le craignons, c'est que nous recevrons finalement ce que Dieu a promis. C'est pourquoi nous restons dans la crainte de Dieu. Nous restons pour lui permettre d'écrire ses paroles en nous, mais nous devons rester dans la crainte de Dieu. Examinons un autre point. Celui-ci était court. La vérité que nous construisons cette semaine, mes frères, sera mise à l'épreuve. Elle doit être testée. Nous avons lu les tests dans la deuxième lettre de Timothée. Lorsque nous passons par ce processus de documentation, lorsqu'il produit la vérité et l'authenticité en nous, quelle que soit la vérité que vous et moi avons construite, elle doit être mise à l'épreuve. Prenons l'exemple d'Israël. Prenez un peu de confiance, frères et sœurs, et d'encouragement de la part de cette nation, et sachez que vous et moi pouvons être encouragés par les leçons qu'ils nous ont laissées. Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le fit pas passer par le chemin du pays des Philistins, qui était pourtant proche. Dieu a décidé de faire prendre à Israël le chemin le plus difficile parce qu'il voulait le mettre à l'épreuve, bien que cela fût proche. Car Dieu dit, de peur que le peuple ne se repente en voyant la guerre, et qu'il ne retourne. Ils veulent retourner en Égypte. Il a dû changer de chemin. Regardons le verset 2 de Deutéronome 8. Les raisons, frères et sœurs, Dieu nous emmène parfois sur le long chemin, le chemin le plus difficile aussi, et nous devons être prêts à y marcher. Deutéronome 8, verset 2. Vous vous souviendrez de tout le chemin que le Seigneur Dieu vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert, pour vous humilier et pour vous éprouver, afin de savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Pour savoir si vous garderiez ou non ses commandements. Dieu leur a fait parcourir un long chemin, mes frères, dans le but d'éprouver ce qu'il y avait en eux, ce dont nous parlons aujourd'hui, et de le mettre à l'épreuve. Revenons à l'Exode. Il voulait voir ce qu'il y avait dans leur cœur. Il veut voir ce qu'il y a dans votre cœur. C'est déjà là, la foi que vous avez construite. Pensez aux Galates, le fruit de l'esprit, la foi, la patience, l'amour que vous avez construit, la bonté, la douceur. Ces choses doivent être mises à l'épreuve. Il y aura encore des moments où Dieu aura besoin de les mettre à l'épreuve pour voir si elles sont réelles. Exode 1, alors que nous commençons à conclure, frères et sœurs, Exode 1, verset 11. Pensons au début d'Israël en Égypte. Ils établirent sur eux des maîtres d'œuvre pour les accabler de leurs fardeaux, et ils bâtirent à Pharaon des villes de trésors, Païsom et Ramsès. Mais au verset 12, regardez ici. Lisez ces mots, mes frères, et intégrez-les à votre vocabulaire et à votre identité. Plus ils les maltraitaient, plus ils se multipliaient et croissaient. Ne pensez pas que je parle de croissance physique. Oui, nous voulons voir plus d'enfants dans les congrégations, c'est certain, mais il s'agissait d'une nation physique. Plus ils étaient affligés, plus ils grandissaient. Pour nous, frères et sœurs, cet exemple est le suivant, parfois, Dieu veut que nous soyons affligés. Pourquoi? Parce qu'il veut que sa parole passe du papier aux gens. Il veut qu'elle soit en vous. Il veut qu'elle fasse partie de vous. Il veut qu'elle soit ce que vous êtes, et ensuite il la mettra à l'épreuve. Et lorsque vous êtes dans l'affliction, il dit que vous grandirez grâce à elle. Vous deviendrez plus fort. Vous aurez plus de foi. Vous gagnerez en amour. Vous vous sentirez plus concerné. Vous aurez plus de courage. Toutes les choses auxquelles vous avez pensé et que vous avez construites, les choses que nous ne regardons pas seulement dans les domaines où nous avons échoué pendant ces jours, mais aussi le caractère que nous avons construit, il va les rendre encore plus fortes, frères et sœurs, mais parfois c'est à travers les tests et les épreuves que cela se produit. Allez au 1er Pierre et au verset 7. Ce n'est qu'un exemple. Je ne parle que d'un seul fruit de l'esprit, mais vous pouvez en fait les mettre tous là, mes frères, et demander la même chose, obtenir la même réponse. 1er Pierre, verset 7, qui dit. Reprenons au verset 6, juste pour un peu de contexte. Vous vous réjouissez de ce que, pour un temps, au besoin, vous êtes dans l'angoisse à cause de multiples tentations, afin que l'épreuve de votre foi. Vous pouvez mettre l'épreuve de votre amour, l'épreuve de votre paix, étant beaucoup plus précieuse que l'or périssable, quoi qu'il soit éprouvé par le feu, soit trouvé pour la louange, l'honneur et la gloire, lors de l'apparition de Jésus-Christ. Je veux que vous soyez encouragés, mes frères. Nous avons peut-être traversé une période difficile, mais le but de Dieu était le but qu'il avait depuis le début, construire son caractère en nous, construire sa parole, sa vérité, son mode de vie en nous, et c'est ce que nous avons fait. Nous allons examiner deux derniers versets. Allez au psaume 51. Le dernier point, plus court, mes frères, regardez pour le grand sous-produit de la joie. Lorsque nous passons à travers et que nous continuons à rester sans levain, cherchez ce grand sous-produit qu'est la joie. Psaume 51 et nous lirons le verset 12. Il s'agit à nouveau d'un psaume. Beaucoup des points que nous avons abordés aujourd'hui et des choses dont nous avons parlé sont couverts par ce psaume, mais ici David dit « Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par ton esprit libre. » Rendre la joie. La joie en nous. Frères et sœurs, c'est aussi un fruit de l'Esprit de Dieu, mais comme nous avons traversé ces jours, construisant cela, traversant ce processus en nous et continuant à rester purifiés, cherchez ce sous-produit de la joie, sachant que Dieu est occupé à faire et à construire, prenant sa parole du simple papier à vous, et cette joie est un sous-produit que vous pouvez retenir comme un résultat, pour ainsi dire. Enfin, frères, n'oublions jamais notre héritage. Passons à un dernier verset ici dans le chapitre des Actes, où allons à Pierre. Allons à Pierre. Lions ici 1er Pierre, chapitre 1, verset 3 et verset 4. Nous sommes déjà passés par là dans le chapitre 1 de Pierre. 1er Pierre, chapitre 1 et verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon son abondante miséricorde, nous a engendrés de nouveau pour une espérance vivante. Cette espérance qui devrait être en nous. N'oublions jamais notre héritage par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible et sans tache, et que la foi n'est pas un chemin qui nous soit réservé dans le ciel. Cet héritage que nous recevrons, mes frères, nous aidera non seulement à rester sans levain, mais aussi, en fin de compte, à poursuivre ce processus dont nous avons entendu parler aujourd'hui, à savoir que Dieu est occupé, mes frères, à nous faire passer sa parole du papier aux gens. Frères et sœurs, en cette fin de journée, efforçons-nous, chacun d'entre nous, de tout notre cœur, de rester sans levain.